Info Club Sandwich.
Votre rendez-vous d'actualité locale, associative et culturelle.
Sur Radio Campus Amiens. Bonjour, ici Jeanne pour votre émission Info Club Sandwich. Aujourd'hui, dans le cadre de notre série spéciale consacrée aux artistes picards sélectionnés aux auditions des Inuits du printemps de Bourges, j'ai le plaisir de recevoir Okala. Bonjour.
Bonjour.
Okala, c'est toi Baptiste, tu nous proposes dans ce projet une pop un peu planante, évolutive, qui est enveloppée de sonorités électroniques et obsédantes d'un synthétiseur, supportée aussi par une base rythmique assez simple et parfois d'autres instruments comme de la flûte, de la guitare,
oui.
Et surtout un ensemble sur lequel tu poses ta voix, qui est harmonisé de cœur. Tu as sorti ton premier EP First Step fin 2019.
C'est ça.
Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les débuts de ce projet-là? Comment est-ce que c'est né au Okala?
Alors déjà, ça fait très longtemps que je fais de la musique. J'avais commencé en groupe il y a une petite dizaine d'années avec un groupe qui s'appelait Nathaniel Isaac Smog. Et puis l'aventure s'est arrêtée. J'ai eu envie de faire une petite pause niveau musique. Et puis j'ai commencé à compiler plein de chansons que j'avais écrites. Et puis de fil en aiguille, je me suis dit, tiens, j'ai envie de les jouer en public, les partager. Et c'est comme ça que Okala est né. Okala, c'est mon vrai nom, c'est mon nom de famille. Donc du coup, je m'étais dit partir en solo et puis, exprimer un petit peu plus librement tout ce que j'avais à dire. C'est arrivé comme ça, en fait.
Parce qu'au début, tu avais commencé à jouer peut-être des projets plus en groupe.
Ouais. Bah, c'est vrai qu'en musique actuelle et dans l'esthétique un peu pop, rock, c'est quelque chose qu'on fait assez souvent, en fait, de commencer à faire la musique à plusieurs. Et puis, avec le temps, les technologies, les ordinateurs, les sampleurs, je me suis rendu compte que c'était aussi possible de faire différemment, de m'inspirer un petit peu de la musique électronique, notamment sur la scène, pour pouvoir jouer, parce que je suis seul, en fait, seul en scène. Donc pour pouvoir jouer mes chansons de cette manière-là, un petit peu différemment.
Et comment est-ce que ça a commencé pour toi la musique? Tu dis que ça fait longtemps que tu jouais.
Alors ma mère est prof de musique, donc du coup il y a toujours eu de la musique à la maison. Donc je peux pas dire précisément quand j'ai commencé, en tout cas il y a toujours eu un piano à la maison. Je me suis toujours amusé à pianoter un petit peu. J'ai commencé la flûte traversière quand j'avais 6 ans. C'est mon premier instrument et puis après j'ai commencé à toucher à d'autres choses et puis très vite j'ai commencé à écrire des chansons comme ça pour m'amuser et puis c'est devenu de plus en plus sérieux et je me suis rendu compte avec le temps que je pouvais exprimer aussi des choses, partager des choses avec les gens et ça a évolué comme ça jusqu'à aujourd'hui au Okala.
Donc Okala, c'est un projet solo, mais tu t'es entouré aussi d'autres musiciens pour certaines parties, comme la guitare et la batterie.
C'est ça, voilà. Pour enregistrer le disque, j'ai travaillé avec Rémi Alexandre, qui est un super multi-instrumentiste, qui faisait notamment partie du groupe Sid Matters, avec qui on a co-réalisé, co-produit le premier EP First Step. Donc du coup, Rémi joue la basse et la guitare sur les titres studio. Moi, je fais à peu près tout le reste, sauf batterie aussi, où j'ai fait intervenir un batteur quand il y a des vraies batteries organiques, disons. Voilà.
Ton EP, donc First Step, comprend 4 morceaux.
C'est ça.
Ça commence donc sur 7 AM, suivi de First Step, puis Lion's Den, et ça se termine donc par Forbidden Love.
Tout à fait.
On trouve des atmosphères qui sont assez différentes au final d'un morceau à l'autre. Il y a des accents un peu psychés, on trouve parfois un peu un côté musique folk aussi, et des sonorités plus électroniques et plus énergiques, comme par exemple sur le morceau First Step.
Ouais.
Comment est-ce que tu as composé donc ces différents morceaux? Est-ce qu'il y avait un fil conducteur à la base qui s'est dessiné dès le départ ou est-ce qu'au final tu as assemblé tout ça naturellement à la fin?
Il n'y a pas eu de fil conducteur. Ce dont j'ai envie ou j'avais envie dans ce projet, c'est de me fixer aucune limite stylistique. Donc vraiment aller tel que je ressentais les choses, telles qu'elles venaient, ne pas du tout me limiter. Donc après, ça reste très pop, parce que c'est ma source d'inspiration principale. Mais il y a plein d'autres influences que je ne suis même pas forcément capable de citer, hein, c'est des trucs inconscients. Mais en tout cas, je voulais vraiment pas me fixer de limites. Donc ça se sent, je pense, dans les chansons, il y a une espèce d'idée de voyage, en fait. Du coup, on navigue un petit peu d'un style à l'autre. Et au final, il y a quand même cette ligne directrice de pop, post-pop, comme je l'appelle, qui permet de garder le fil, quoi.
Est-ce qu'il y a des artistes, des albums qui ont influencé particulièrement le son de cet album-là?
De ce EP-là, non, pas particulièrement. Après, musicalement, ce qui m'a beaucoup influencé, c'est des choses qui n'ont pas grand-chose à voir pourtant avec ce que je fais aujourd'hui, mais il y a Michael Jackson, qui a été une source d'inspiration incroyable. Il y a Arcade Fire, il y a Daft Punk, il y a plein de projets très différents, de styles très différents, mais qui m'ont toujours énormément inspiré. La musique de film aussi, François de Roubaix, voilà, des artistes comme ça incroyables qui m'ont nourri en fait.
J'avais l'impression, après c'est peut-être tout personnel, hein, mais d'entendre un petit côté Tame Impala aussi dans cet album.
C'est fort possible parce que j'ai quand même beaucoup écouté ce groupe, donc il y a des chances, ouais.
Peut-être dans l'utilisation des chœurs notamment.
C'est vrai, j'y avais pas pensé, mais carrément.
Donc c'est sur chacun des morceaux, il y a justement ce gros travail sur les chœurs, sur l'harmonie en fait. Tu harmonises ta voix avec des chœurs qui sont très très présents en fait, qui prennent même autant de place que la voix principale.
Absolument.
C'est un domaine de composition qui t'intéresse toi justement, le travail sur l'harmonie?
Ouais, j'aime beaucoup ça, et en fait au tout début quand j'ai commencé à composer et à arranger mes propres morceaux, j'imaginais des orchestres en fait, j'imaginais plutôt des cordes. Comme j'avais pas ça sous la main, je m'étais dit je vais faire ça avec ma voix. Et c'est arrivé comme ça en fait, la présence des chœurs dans mes compositions. Puis j'aime bien chanter en voix de tête et du coup les chœurs c'est parfait pour ça. Donc c'est arrivé comme ça et du coup j'ai vraiment besoin de ressentir des chœurs. J'ai besoin de les avoir, quelque chose d'un peu parfois angélique, très éthéré aussi, j'adore ça en fait. Donc j'essaie de me restreindre parfois, sinon j'en mettrais partout, mais ouais, c'est ça.
Ça apporte une dimension très planante aussi.
Ouais, carrément, moi j'adore ça, ouais, ça me donne l'impression de toucher quelque chose un petit peu suspendu, de, je sais pas, un truc un peu perché, mais genre atteindre un petit peu ma vérité dès que je mets des chœurs comme ça dans les chansons.
Tu donnes aussi pas mal de place aux moments instrumentaux. Il y a souvent des longues introductions instrumentales.
Oui, j'adore ça.
C'est l'idée de poser un peu une atmosphère, du coup, avant de commencer à chanter.
Exactement. J'ai, dans mon idée, alors c'est pas du tout format radio, c'est pas du tout dans ce truc-là, mais j'aime poser les ambiances. J'ai quand même coupé des intros sur le EP, parce que sinon il y avait des intros qui étaient vraiment très très longues. Mais je trouve ça chouette. J'aime bien l'idée de proposer des chansons qui nécessitent un peu d'attention, même si c'est ça peut être hyper casse-gueule en fait, parce que je sais que on est dans l'ère du zapping en fait. On a besoin que la chanson elle soit calibrée 3 minutes et que ça parte tout de suite, et c'est un peu le contre-pied. J'aime bien cette idée-là du coup. Même artistiquement, j'ai l'impression de donner quelque chose d'une valeur particulière aux gens en fait, en disant voilà, je vais prendre le temps avec vous, j'espère que vous aimerez, mais ben voilà.
Et au niveau du live justement, t'entends faire ces longues plages instrumentales aussi avant de commencer à chanter?
Non, un petit peu moins, parce que dans le live il y a une urgence en fait. On a le temps sur disque d'écouter, de réécouter les chansons, de sentir toutes les subtilités, etc. En live c'est un petit peu différent. Donc il y a plus d'attaques en live, on va plus droit au but. J'ai tout réarrangé, les morceaux ont complètement été arrangés sur toutes les chansons pour justement le live et surtout pour pas proposer la même chose que ce qu'on peut entendre déjà en streaming, etc. J'aime bien cette idée-là de proposer un spectacle et du coup qui est quelque chose d'un peu exceptionnel en fait.
Donc deux choses différentes en fait, le CD et le live, c'est deux exercices différents.
Carrément, ouais.
Et tu as pu te produire un petit peu en concert, parce que tu as sorti ton EP donc fin 2019, avant la fermeture.
Juste avant le drame.
Oui.
Mais ouais, en plus, ça partait bien. Là, l'an dernier, j'ai quand même pu jouer... j'ai donné 11 concerts, donc la moitié de ce qui était prévu. Donc voilà, je suis arrivé un petit peu à passer entre les gouttes. L'avantage d'être tout seul sur scène, c'est qu'avec les mesures sanitaires, il y a quand même des dates qui ont pu être maintenues. C'est une période extrêmement frustrante, forcément, parce que voilà, c'est beaucoup de travail sortir un disque. Et du coup, la crise est arrivée juste au moment où on commençait vraiment à attaquer la promo, à être un petit peu, à avoir des relais médias et tout. C'est un peu chiant, mais bon, on s'y fait quoi, on est tous dans le même bateau de toute façon. Donc.
Pour revenir peut-être un peu sur les différents morceaux de cet album, ça s'ouvre donc sur 7 AM. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce morceau-là, Comment est-ce que tu l'as écrit? Qu'est-ce qui t'a inspiré?
Alors, 7 AM, c'était un peu l'histoire qu'on ressent un peu tous, je crois, quand le matin, le réveil sonne, l'impression d'être totalement désincarné et que... Il y a quelque chose qui nous pousse à avancer, on ne comprend pas pourquoi, mais ce n'est clairement pas naturel. En fait, c'était cette impression-là et ce ressenti-là que j'avais envie d'exprimer. La chanson en elle-même, musicalement, elle suit cette idée en fait, de quelque chose qui commence doucement et puis d'un coup qui devient plus agressif avec une grosse basse au synthé analogique très très lourde et qui finit avec des tomes très marqués. Comme quelque chose de martial en fait, comme si on devait marcher dans la vie sans trop se poser de questions et que c'était un petit peu difficile. C'était ça l'idée de 7 AM.
Et tu pars à chaque fois d'une idée particulière en fait, d'une sensation avant de commencer à composer, ou est-ce que c'est d'abord la mélodie qui vient?
Ça dépend des fois, mais en tout cas c'est toujours la musique. C'est toujours la musique en premier. J'ai déjà essayé d'inverser, d'écrire des paroles, mais non, c'est plutôt la musique en fait qui va me guider et les paroles vont venir se calquer sur la musique, exprimer ce que d'une certaine manière la musique dit déjà en fait.
Dans la musique, tu entends du coup le synthé ou la voix peut-être?
C'est ça, les harmonies, le développement même, la façon dont vont se dérouler les compositions, les arrangements en fait. J'ai une approche un peu, je mets des grosses guillemets, un peu musique classique en fait, dans ma façon d'écrire. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il y a des longues introductions, où on pose l'ambiance, il y a des appels, et puis on vient dérouler la mélodie, et on vient dérouler les arrangements. Chaque élément musical a son rôle et porte sa propre voix, en fait, son propre message. En tout cas, c'est comme ça que j'envisage la musique.
Et c'était le cas justement pour les autres titres de l'EP?
Ouais, absolument.
Pour First Step, par exemple, comment est-ce que ça a commencé?
Alors, First Step, c'est une chanson qui s'est quasiment composée en studio, en fait. J'avais juste un bout de maquette, la partie centrale d'ailleurs, la partie instrumentale qui était là. Et le reste est venu assez bizarrement, en fait. C'était une chanson, je ne savais pas trop justement ce que j'avais envie de dire. J'étais un peu perdu. D'ailleurs, dans ma vie à ce moment-là, j'étais un peu perdu. Et c'est pas pour rien qu'elle s'appelle First Step en fait. J'ai décidé que ce serait le début de quelque chose en fait, cette chanson. Ah, c'est la première fois que j'en parle en fait. C'est trop bizarre.
Pourtant, ouais. C'est le titre aussi, enfin, c'est le titre éponyme de l'album.
C'est ça, c'est pour ça en fait que c'est devenu le titre du EP. C'est vraiment que j'avais envie de poser les choses. Je pense que musicalement, elle condense pas mal mon univers, en fait. Elle est assez variée. Et ouais, elle annonce le début de quelque chose. En tout cas, c'est là que Okalain, et c'est sur cette chanson, c'est sûr.
Et donc, tu as proposé aussi deux autres titres dans cet EP. Mm-hmm. Il y a Lion's Den.
Oui.
Quel type d'univers est-ce que tu peux nous en parler un peu?
Lion's Den, je repensais à mon adolescence, qui a été... adolescence assez banale de jeune garçon totalement névrosé et qui en a pas mal bavé en fait émotionnellement de par le rapport à mes parents, à la vie en général et j'avais envie d'exprimer ces choses-là, donc du coup j'ai pris une forme, je me suis inspiré de ce que j'écoutais un petit peu à l'époque et notamment des trucs qui n'existent plus du tout aujourd'hui, c'est un peu des slow quoi. Des chansons très très lentes de ballades. Je l'ai pensé vraiment très années 90 en fait dans son déroulement. Et voilà, je parle de ça, cette idée que je sais pas trop comment le dire, mais ouais, je sais pas. Je réfléchis là, à haute voix. Le lion en fait, c'est l'image du père. Et donc je raconte la relation au père et comment on vient décider d'être soi-même à un moment donné. Les parents ont envie qu'on soit quelque chose. Nous, on n'en a pas envie, on sait que c'est pas possible. Et à un moment, on vient dire stop. On coupe la tête du lion. Elle raconte ça, cette chanson. Donc, sous ces airs de balade, c'est un peu plus sérieux, en fait. C'est marrant parce que des gens l'ont pris pour une chanson d'amour. C'est une chanson d'amour, mais pas dans le sens auquel on pense en premier, quoi.
Et cette thématique-là était venue après, une fois que tu avais déjà trouvé l'air et...
Ouais, en fait, non, enfin, oui et non. C'est-à-dire que l'écriture des paroles, oui, arrive après, mais le thème était déjà là, en fait.
D'accord, donc
L'envie, l'ambiance était déjà là, et après, il suffisait, en gros, de...
Le thème est dans l'arrangement au départ, en fait.
C'est ça, c'est ça. J'ai toujours pensé que je pouvais... D'ailleurs, je pense que je serais amené, tôt ou tard, à écrire des chansons totalement instrumentales aussi, quoi. C'est quelque chose qui me plaît énormément, et parfois... Comme dans la vraie vie, on n'a pas besoin de poser des mots, en fait.
Il y a un dernier titre, du coup, dans cet album, Forbidden Love, qu'on pourrait écouter à la fin de cet entretien.
Cool.
Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de celui-là aussi ? On change un peu d'atmosphère, on passe sur quelque chose aussi de très très lent, très progressif,
ouais.
En fait.
Exactement. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'elle a failli ne pas être sur le EP, cette chanson. J'avais des doutes, je ne savais pas trop, parce qu'elle était un petit peu différente. Et puis, en fin de compte... ça reste toujours une ambiance et un univers très singulier, donc je l'ai mise sur le disque et j'ai bien fait parce qu'elle a plutôt pas mal marché, elle a été en radio nationale en Suisse, on en a parlé dans Libération et tout, donc ça aurait été bien dommage de ne pas la mettre. Et justement, tu vois, je te disais que je pouvais être amené à chanter des chansons, enfin à jouer des chansons instrumentales, et celle-ci elle est quasi instrumentale en fait. Dans mon traitement de la voix, je pars souvent de l'idée que même si elle est en lead, la voix, ça reste un instrument comme les autres. Et du coup, pour le coup, cette chanson, les chœurs vont juste intervenir à peu près au milieu de la chanson, comme un instrument, en fait, qui vient traduire une émotion sur cet instant-là, en fait.
Tu penses qu'on donne des fois peut-être trop d'importance aux paroles et puis à la voix dans certains groupes et...
C'est possible, je sais pas, ça dépend des esthétiques, ça dépend de plein de choses. Après, moi, dans la vie de tous les jours, je suis plutôt un taiseux, en fait. Donc, je parle pas énormément. Je suis plutôt du genre à parler uniquement quand il faut vraiment parler. Voilà, je pense que ça dépend des personnalités, ça dépend plein de trucs. Par exemple, en rap, j'aurais du mal à imaginer du rap sans parole. En pop, c'est un peu plus possible. Après, vraiment, ça dépend de ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de donner. Moi, je pars vraiment du principe que les émotions et même un discours très concret, en fait, peut passer sans parole. C'est peut-être un peu perché, mais j'en suis vraiment persuadé, en fait. Donc, parfois, dans mes chansons, puisque c'est mon espace de liberté d'artiste, je me permets de ne rien dire pendant 2 minutes, laisser la musique qui parle à ma place, en espérant que ça touche les gens, quoi.
Est-ce que tu parlais tout à l'heure du fait que peut-être tu travaillerais sur des morceaux instrumentaux, mm-hmm. Est-ce que tu as d'autres projets là pour la suite, un EP, un album peut-être ?
Il y a un deuxième EP qui est en préparation, je joue une partie des chansons déjà sur scène en fait. Pour l'instant je reste sur un deuxième EP. Pour la suite, on verra, album ou pas album, ça dépendra des opportunités, de ce qui se passe et tout. Voilà.
Donc un EP pareil, de 4 titres à peu près ?
Je pense que ce sera un 5 titres, 5 ou 6, on verra, ou 5 plus un bonus. Enfin, on verra comment ça se passe. En tout cas, il va être très très cool.
Dans la même esthétique du coup ?
Toujours dans la même esthétique, avec un propos peut-être légèrement différent. Mais ouais, ça restera du Ocala.
Tu, comme Masto Balidou et Océan Pur, tu as été sélectionné pour les auditions des Inouïs du printemps de Bourges.
Oui.
Au total, c'est 132 groupes qui vont être ou qui sont en train d'être auditionnés et une trentaine qui pourront participer donc à la 45e édition du printemps de Bourges. Les Inouïs, donc, c'est un dispositif de repérage de jeunes talents, un des plus importants au niveau national. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, quand t'as appris la nouvelle, quand t'as su que t'étais présélectionné ?
J'étais hyper content, d'autant plus que ça voulait dire un concert. Parce que là, on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas une situation sanitaire qui bloque un peu toute l'industrie, en fait. Donc, du coup, je me suis dit, bon, déjà, au moins, en 2021, j'aurai une date de concert, et ça, c'est déjà cool. Donc, j'ai plutôt pris comme ça. Je l'ai vu comme une espèce de bonus tombé du ciel. Après, bien sûr, j'aimerais vraiment aller à Bourges. C'est vrai que c'est une belle occasion. Mais déjà, j'étais juste content, en fait, de me dire que j'allais jouer dans des conditions qu'on connaît habituellement et qui, là, sont plus possibles. Donc voilà, j'ai juste pris ça comme ça.
Donc, tu as pu passer ton audition il y a peu de temps. Comment ça s'est passé? Du coup, vous jouiez devant un public, quand même?
Alors, il y avait juste un public de professionnels. Donc, je crois le jury et quelques autres personnes, notamment, je crois qu'il y avait l'équipe de la Lune des Pirates qui était là. Donc, c'était déjà cool, vraiment, de jouer devant des gens. Parce que, du coup, il y avait des applaudissements à la fin. Parce que j'avais fait quand même... Fin décembre, j'avais fait un live stream à Saint-Quentin avec la manufacture. Et c'était très bizarre parce qu'il n'y avait personne dans la salle. Et c'est assez perturbant, en fait. Même si on sait que des gens regardent, de ne pas avoir le retour, c'est assez perturbant. Donc là, ce qui était cool, c'est qu'il y avait donc le public.
On voit les émotions sur les visages un peu plus.
C'est ça, et puis les applaudissements, et puis voilà, on a vraiment la sensation de donner quelque chose, ce pourquoi on fait ce métier, en fait. Donc ça, c'était vraiment cool, et puis l'audition s'est bien passée. On avait pas mal bossé, en fait, le live, on avait fait plusieurs résidences pour préparer tout ça. On avait un beau jeu de lumière, on avait bien travaillé le son comme il faut, donc c'était vraiment très très chouette de pouvoir le présenter.
Tu disais que c'était pour ça qu'on faisait ce métier aussi. Le live, pour toi, c'est très important, ce rapport au public.
Ouais, parce que y a deux choses, en fait, dans le métier d'artiste-musicien, en tout cas. Pour ma part, il y a une partie composition qui est extrêmement solitaire, en fait. C'est quelque chose où on commence à exprimer ses émotions, à donner, à réfléchir. Et puis, il y a un moment où il faut qu'elle vive. Et là, on devient interprète. Et ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on ne peut plus être interprète. Et ça, c'est très compliqué. Je ne peux pas ressentir un équilibre, en fait, sans les deux. Dans la balance, il y a quelque chose qui manque. Donc oui, c'était bien, là, du coup, de pouvoir faire vivre l'interprète aussi. Et l'interprète, il se nourrit des échanges avec le public. Il n'existe que pour ça, en fait. Parce que ce n'est pas juste triper seul sur scène. Il faut que ça parle aux gens, quoi, qu'il y ait quelque chose dans le regard et qu'il y ait un échange.
Et est-ce que tu as des dates peut-être de potentiel de prévues pour les mois à venir?
Alors normalement, je fais partie d'un festival qui s'appelle Live entre les livres, qui a lieu en Hauts-de-France. Et normalement, si la situation sanitaire le permet, en avril, j'ai 3 ou 4 dates dans le Pas-de-Calais, mais je sais plus, je les ai pas en tête là. Mais ouais, il y aura quelques dates. Après, pour le reste, comme ça fait un an, c'est quand même compliqué de booker des dates. Toutes les progs attendent de savoir ce qui va se passer, donc on est tous un peu en attente, quoi.
En tout cas, on suivra ça de près ici à Radio Campus Amiens.
Merci
beaucoup, Okala.
C'est moi.
Okala, c'est donc un des 4 projets qui a été présélectionné pour représenter la Picardie aux Inouïs du printemps de Bourges. Au moment de l'enregistrement de cet entretien, on ne savait pas que Okala était le projet sélectionné parmi ces 4 groupes pour représenter donc la Picardie aux Inouïs du printemps de Bourges 2021. Il pourra donc normalement se produire à Bourges du 22 au 27 juin prochain. Un grand bravo à lui. Je vous propose donc de terminer cette émission sur Forbidden Love, donc dernier titre de l'album First Step d'Okala.